Vous écoutez France Culture. Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et bonne manière de commencer l'année avec la suite de cette série consacrée à Philippe Solers. Hier et avant-hier, Philippe, vous nous avez parlé de votre travail d'écriture et ce soir, vous avez accepté mon invitation d'inviter une personne de votre choix et nous sommes très heureux ici à Hors-champ de recevoir Julia Kristeva. Alors Julia, première question, de quoi est fait le nom de Philippe Solers et de qui est-il le nom ?
C'est un nom qui vient de la mythologie grecque et qui est l'adjectif qui caractérise Ulysse et qui vient nous dire dans une société qui travaille avec des éléments de langage que tout est ruse, habileté, intelligence.
Mais il ne s'appelait pas Solers quand vous l'avez rencontré ?
Si, il s'appelait déjà Solers, bien sûr.
Ah, il très jeune donc.
Écoutez, moi je l'ai rencontré quand il avait déjà 36 ans, ou presque. Et nous étions tous les deux très jeunes, mais il avait déjà une biographie avec lui, derrière lui, une vie sexuelle, érotique, sentimentale, et surtout une vie d'écrivain avec le nom de Solers, absolument.
Comment vous êtes rencontrés ?
Alors, moi, je suis arrivée en France à la veille de Noël 66 et nous nous sommes rencontrés très vite au début de l'année 67. Moi, j'étais une exilée de Bulgarie, un pays de l'Est que le général de Gaulle voyait déjà dans une grande Europe qui se construisait, selon lui, de l'Atlantique à l'Oural. Il donnait des bourses et c'est pour cette bourse que je suis venue en France pour faire une thèse sur le nouveau roman. Mais très vite, je me suis rendu compte que je serais une exilée et que je ne rentrerais pas en Bulgarie et que en France non plus, je ne m'installerais pas. Ni dans l'université, ni dans un boulot, ni dans un jury littéraire, ni dans mes zones érogènes, ni dans les lettres françaises. Il m'a semblé important de trouver un horizon, pour dire ça de manière un peu elliptique. Quelque chose d'ouvert et qui me remet en question. Et j'ai rencontré un jour cet horizon en feuilletant le journal de la jeunesse communiste Clarté, où j'ai vu le portrait d'un jeune homme extrêmement séduisant, parce que quand on est jeune fille, il faut quand même être séduit par un jeune homme, mais surtout, il s'exprimait sur la littérature en des termes qui m'ont paru d'une grande intensité, d'une grande nouveauté. Et ce jeune homme s'appelait Philippe Solers, et je l'ai rencontré pour ses deux qualités, d'élégance et de force de footballeur que je ne pensais pas trouver dans les lettres françaises et dans aucune littérature. D'ailleurs, les écrivains ont un côté un peu chétif, un peu parcheminé, comme ça, un peu rat de bibliothèque ou de rien du tout.
Donc vous avez cherché à le rencontrer ?
Et je l'ai rencontré, oui, j'ai cherché à le rencontrer. Nous sommes vus aux éditions du Seuil, où se trouvait à l'époque le bureau de Tel Quel, et nous ne sommes plus quittés.
Coup de foudre.
En quelque sorte. Mais surtout, je voudrais insister parce que le coup de foudre renvoie à quelque chose de mystique et d'informulable, alors qu'il m'a semblé tout de suite extrêmement intéressant dans son expérience le fait qu'il fait de la littérature pas comme les autres. Et qu'il y avait là un enjeu absolument essentiel, on disait à l'époque révolutionnaire, mais ça l'est toujours, qui consiste à bousculer le sommeil des lettres. et qui consiste en fait à donner une effervescence du langage qui balaye les genres. C'est de la poésie, c'est du rêve, c'est du récit, c'est de la philosophie, pour remettre en cause nos propres limites. C'est pour ça que ma recherche de l'horizon se retrouvait là. C'est une extraordinaire effervescence de langage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a écrit des livres comme Nombre, Loi, sur lesquels je voudrais dire quelques mots tout à l'heure, qui se prolongent maintenant sous une forme beaucoup plus apparemment classiquement romanesque, où il y a plus de personnages coagulés, un homme, femme, amant, situation historique, etc. Mais cette recherche du roman de la pensée, du roman du langage, continue à être le cas. Et on appelait ça à l'époque l'écriture, on peut l'appeler expérience intérieure, pourquoi pas mystique. J'ai croisé ça avec d'autres moments de la littérature mondiale et française à travers les siècles. Mais c'est quelque chose d'inclassable et qui donne une respiration à la littérature. Et c'est pourquoi je crois qu'il est tout à fait à la fois fascinant aujourd'hui, impensable, les gens n'arrivent pas à le caser dans des catégories, et toujours une promesse de cette espèce de sommeil des étagères et des écrans où on nous vend du somnifère sous forme de roman. Et donc c'est pas du tout ça, et ça a toujours été quelque chose qui nous a accompagnés. Donc le coup de foudre est un coup de foudre dans la culture.
Alors vous ne savez pas, Julia, que hier Philippe Solers a parlé de vous en disant qu'il aimait bien de temps en temps être Monsieur Kristeva.
Ça, je ne sais pas s'il l'aime vraiment. Vous savez qu'il est très drôle, il est extrêmement coquin et comédien. Avec notre fils David, on l'appelle le Molière d'aujourd'hui parce qu'il n'arrête pas de faire des blagues. Mais il prétend, je ne pense pas que ce soit si fréquent, que quand on va aux États-Unis et même à Paris de temps en temps, des étudiants américaines débarquent et sonnent à la porte et vous êtes Monsieur Kristeva. Donc il est en extase, mais c'est une extase très dramatique, il n'est pas
c'est
content
rare.
Du tout.
Oui. C'est rare, les hommes qui aiment se faire appeler du nom de leur femme, Philippe Solers.
Oui, mais il y a des intérêts à ça. Si Julia vient me voir, on commence à parler, elle se présente comme universitaire, mais elle est tout de suite, je me rends compte qu'elle a une dimension extraordinaire. Je croyais qu'elle allait tenir des discours universitaires, mais elle me parle tout de suite des surréalistes et des formalistes russes qu'elle a d'ailleurs introduits en France. Bref, on finit cet entretien et on va dîner et on ne se quitte plus, elle a raison. Cela dit, c'est devenu, avec le temps, avec une force de travail que je n'ai jamais rencontrée, ou très rarement, hein, très rarement, chez les hommes comme chez les femmes, hein, force de travail considérable. Elle a obtenu petit à petit une notoriété considérable, notamment dans les pays anglo-saxons, mais enfin sur la planète en général, elle revient de Chine, où elle est applaudie, etc. Il n'y a qu'en France, et c'est pour ça que c'est un problème très important de voir qu'elle est mal reçue. C'est un problème de femmes un peu supérieures qui sont très mal considérées.
Enfin,
aujourd'hui,
on l'aime et on l'admire.
Aujourd'hui, vous avez Bordeaux qui se signale toujours par une avancée dans l'ordre de l'esprit, qui vient de nommer une bâtonnière par les magistrats. Et il y a eu des ploucs magistrats qui, ce matin même, disaient « Oh, bon, pour une femme bâtonnière, mais une femme n'a pas les épaules assez larges pour traiter du pénal, etc. » Bon, voilà. Les Français ont un problème. Alors moi, je n'ai pas ce problème du tout.
Féministe, Solers ?
Le mot est trop faible. Moi, je suis un aventurier. Par conséquent, si ma femme, c'est ma femme, oui, si vous voulez, 40 ans de mariage, c'est quand même pas rien. On voulait faire un livre qui s'appelait « Du mariage considéré comme un des beaux-arts ». Le titre est très bon, surtout en cette période très, très chahutée sur le mot de mariage. Mais enfin, si je vais à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique, pour ne parler que de New York ou de Washington, je suis absolument barré par l'université américaine et par les médias américains. Je suis tout French,
pas Julia,
trop français. Elle, c'est une star. Par conséquent, je profite d'elle, c'est mon intérêt. Je m'installe chez elle, elle a des appartements, elle est très bien traitée par l'université. C'est une star. Prix Holbert, prix Nobel.
Et ça vous fait plaisir.
Et écoute, je fais gigolo chez ma femme. Et donc, c'est pas tout le temps.
Quelle plus belle position.
Eh bien, écoutez, c'est assez.
Il n'y en a pas.
Et Et voilà, c'est comme ça. Donc, on a été très heureux à New York, on a été très heureux à Washington, magnifique, magnifique végétation, et c'est un enchantement d'être monsieur
qui s'est battu. Quand Julia part en Chine, vous ne l'accompagnez pas. Hein.
Ben, écoutez, pas pour l'instant, mais enfin, ça viendra.
Mais écoutez, tout ça est rendu possible par au moins deux choses. La première, pour aller dans le sens de la critique de notre société, je ne sais pas si elle est très antiféministe, sûrement, comme toutes les sociétés, mais elle est aussi très réticente par rapport aux étrangers. Je l'ai dit dans un de mes livres, nulle part on est plus étranger qu'en France et nulle part on est mieux étranger qu'en France. Parce qu'il y a néanmoins ce débat et le fait que vous nous invitez aujourd'hui pour parler de cette relation à une femme étrangère, prouve que ça peut être pensé, ça peut être mis en question et ça peut se développer, cet accueil de la femme étrangère. Mais ça, c'est peut-être moins intéressant aujourd'hui. Pour répondre à votre invitation, j'ai pensé surtout que le moment était bon pour moi de dire comment je le lis. Parce que Soler, c'est quelqu'un qui parle beaucoup à la télévision, on le voit un peu
peut-être
partout.
Peut-être trop.
Moi, je ne trouve pas,
jamais
assez,
trop.
Pas assez. Mais il a, dans cette effervescence de langage dont je parlais tout à l'heure, j'aimerais reprendre un livre dans lequel on voit, on entend, mais on la voit aussi parce que c'est très coloré, cette effervescence de langage. Il est aussi quelqu'un d'extrêmement concis. Et il invente des mots qui résument un peu son existence et son rapport avec les femmes aussi, parce que c'est votre sujet. Il y a deux mots qui me frappent beaucoup, « oublu » et silencieux. Alors, il dit qu'il est. On vous a lu, oui, vous m'avez lu, mais vous m'avez oublié. Donc, on l'oublie facilement parce que vous allez voir pourquoi. Parce que c'est une langue qui remue les entrailles, qui remue tous les sens, qui remue la pensée. Et si vous n'arrivez pas à suivre ça, ben vous abandonnez et vous somnolez. Et silencieux, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça renvoie à des moments qu'il saisit dans leur relation amoureuse et en particulier dans un livre qui s'appelle oui, L'étoile des amants, c'est le moment où les deux personnes se retrouvent dans le noyau du temps, une espèce de temps nucléaire qui ne peut pas se dire et qui comporte des silences. Et il appelle ce temps-là d'un mot, d'un verbe silencieux. Ça me paraît très juste parce que c'est pas quelqu'un qui raconte ses histoires amoureuses. Il les condense, il les suggère, il les silencie, il faut le déchiffrer. Et quand il vous parle de monsieur Solers, madame, monsieur Kristeva, etc., il y a beaucoup de silencieux dedans. Mais pour ce qui est de l'effervescence de langage, je voudrais commencer peut-être par les premiers romans que j'ai lus de lui. Après Drame, il y a eu un qui m'est consacré parce qu'on voit la dédicace en lettres cyrilliques pour Julia et dans lequel l'ensemble du texte est un langage poétique, onirique qui décrit cette effervescence des mots pour nous faire entrer de la surface des choses à nos corps. Vous permettez que je lise deux phrases qui sont longue et pas ponctuée, ça va se complexifier encore dans Paradis. Et la voix disait cela maintenant, et c'était bien ma voix s'élevant de la vision colorée, ou plutôt du fond brûlant des couleurs, ma voix que j'entendais moduler une conjuration fluide, pressante, où les voyelles se suivaient, s'échangeaient et paraissaient s'appliquer au texte à travers mon souffle. Leur suite agissait directement sur chaque détail, repoussait les éléments hostiles, formait une chaîne rythmée, un spectre qui rassemblait et distribuait les rôles, les faits et ce jeu m'employait comme une figure parmi d'autres. J'étais simplement pour lui un grain soulevé, lancé. La formule pourrait s'énoncer ainsi. Ioui, Julia. C'est mon slave, à condition de lui imprimer aussi une ondulation constante, quelque chose d'ivre, et etc. Cette langue qui se fait et qui se défait à travers les voyelles, à travers les sons, on va la retrouver jusque dans sa manière de traverser l'histoire de la culture sous la forme d'articles, apparemment, qui sont réunis dans Fugue.
On trouve donc l'avant-dernier ouvrage publié.
Voilà, qui est un recueil de textes publiés dans différents supports et qui s'adresse à des moments importants de l'histoire culturelle. Ça peut être Pascal, ça peut être Shakespeare, ça peut être Lacan ou Sartre, etc. Mais il les saisit dans des détails, on peut peut-être en donner quelques exemples tout à l'heure, qui résument à la fois les biographies de ces personnes et l'essentiel de leur écriture. Et en même temps, il projette beaucoup de soi-même dans ses textes. Ce qui fait que ça donne un roman aussi. Son écriture théorique d'essayiste est un roman. Et d'ailleurs, je donne cet exemple parce que ça montre combien l'ambition de réformer le roman est présente tout au long de son écriture. Il dit ceci dans Fugue, justement. Il dit « C'est cela un vrai roman, un livre où l'on peut suivre pas à pas l'histoire coincée des vies individuelles aujourd'hui. » Voilà, les gens écrivent des romans pour raconter l'histoire coincée des vies individuelles. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. C'est ce que j'essaye de faire, dit-il, est tout autre. D'où une incompréhension assez partagée, mais cela n'a aucune importance. J'essaye de rendre le romanesque de pensée, de vie, dans ces aventures que j'appelle celles du voyageur du temps. J'ai donc la prétention de faire le vrai roman de mon époque. Donc en déplaçant cette effervescence jusqu'à l'histoire de la pensée, et après dans ses propres romans plus récents, il traduit quelque chose d'essentiel à la pensée européenne qui est de mettre en question, de se mettre en question et de mettre en question les genres aussi. Mais dans les derniers textes, en restant quand même près de quelque chose que demande la société du spectacle, c'est-à-dire des caractères, des intrigues, d'où le fait que le roman s'est imposé plus à la surface.
Philippe Sellers.
Oui, ce qui me frappe là, c'est la façon dont Julia vient de lire un passage où je décline au fond son nom. C'est-à-dire que la voilà tout à coup en muse, c'est-à-dire son prénom, Julia, enfin, il y a le caractère cyrillique, donc là on a déjà affaire à une langue étrangère. J'insiste sur le fait que le français, poussé à une certaine précision, est capable de passer à travers toutes les langues. Alors, je ne suis pas vraiment un virtuose du bulgare, du russe ou des langues slaves, ni d'ailleurs de l'anglais, ni moi je suis meilleur en espagnol, c'est mon premier livre, ou en italien, mais il me semble que le français a une caractéristique, une force de traduction considérable, que ce soit pour le chinois. Je veux dire que le français, au moment même où on pourrait prétendre que c'est une langue morte, qui n'est plus enseignée, qui n'est plus comprise, etc., au contraire, je crois que c'est une splendide expérience d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même étonnant de voir que toute l'histoire est à notre disposition. On peut fouiller partout, jamais un être humain n'a eu en possession une possibilité de connaissance sur l'histoire comme aujourd'hui, au moment même où l'histoire, on vous déclarera qu'elle est finie, qu'elle est évacuée, et où il est facile de vérifier non seulement que les gens ne lisent pas, mais oublient, mais que l'histoire est évacuée de leur vie. Ils ont affaire à leur petite vie, provinciale en général, avec des embarras sexuels considérables, et au fond, ils ne savent pas très bien où ils sont situés dans l'histoire. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est prendre un petit personnage qui s'appelle Sellers, microscopique.
Qui n'est pas forcément vous, vous n'êtes pas dans l'autofiction.
Non, mais qui est là, qui a son histoire personnelle, mais dans la grande histoire. Et donc, l'histoire personnelle doit être insérée dans la grande histoire. Donc, vous êtes aujourd'hui dans une situation extraordinaire. Vous avez droit à des enregistrements de musique comme il n'y en a jamais eu depuis 30 ou 40 ans. On ne jouait pas Mozart au début du XXe siècle. Vous avez tout Mozart. Vous avez toute la bibliothèque qui vous parle si vous voulez. Il y a un de mes livres qui commence comme ça, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un livre qui sort de la bibliothèque et qui me choisit comme lecteur d'un mort qui est plus vivant.
Comment ça, vous choisissez ? Comment le livre vous choisissez ?
Par exemple, là, je me rappelle très bien, c'est une sorte de vision que j'ai eue. Il y avait Cyrano de Bergerac dans ma bibliothèque. Tout à coup, Cyrano de Bergerac qui me sort et me demande de parler en son nom. C'est-à-dire, les morts sont plus vivants que les vivants. Voilà l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui. Les morts, les pauvres morts, comme dit Baudelaire, ont de grandes douleurs. C'est pas qu'ils ont de grandes douleurs, c'est sûr, mais surtout oubliés comme ils sont, négligés comme ils sont, falsifiés comme ils sont, réduits, embouillis.
Et vous les faites revivre.
Et moi, je les vois, ces morts.
Ils vous
appellent. Je suis comme dans Shakespeare, comme dans les grands romans initiatiques et les mythes. Je descends non pas aux enfers et je vois, ils me parlent. Et la bibliothèque vous parle alors, ben oui, elle vous parle dans tout, en latin, en grec, en hébreu s'ils le font, en chinois, pourquoi pas. Les morts vous sollicitent, ils vous appellent. Et les vivants sont très criminels de ne pas les écouter.
Vous avez combien de livres dans votre bibliothèque ? Vous avez une bibliothèque commune ou chacun fait bibliothèque à part ?
Oh là là.
Julia et Philippe.
On a des bibliothèques à part, mais il y a des endroits où ça se croise. Il y a certaines choses qui sont...
Il y a beaucoup de livres, oui, énormément. Énormément et très très sélectionné, très dans un grand désordre.
Des livres enfouillis ou
parce
des livres
on vit...
très classés.
Je sais où ils sont tous, oui. Je sais, je d'emblée. Et encore une fois, classé n'est pas un mot que j'emploierai. Je vous dis, c'est tout à coup, il y a un livre qui appelle. Comme c'est curieux, les livres sont vivants, comprenez-vous. Ils sont pas morts. Et c'est les passants du jour qui sont morts. Les livres sont absolument vivants. J'ouvre un livre de poésie, bon, je sais qu'à un moment donné, Baudelaire veut me parler et je vais avoir Baudelaire. Ah, voilà, ou je vais avoir Shakespeare, ou je vais avoir Rimbaud, ou je vais avoir Mallarmé. Oh, voilà, penser, écrire sans accessoires. Oh là là, mais alors, mais qu'est-ce que la pensée ? Qu'est-ce que c'est que penser ? Qu'est-ce qui nous appelle à penser ? Comme dit ce penseur maudit qui s'appelle Heidegger, on pourrait y rester 3 heures si vous voulez. Qu'est-ce qui nous appelle à penser ? Voilà, nous ne pensons pas encore. Voilà, nous ne pensons plus.
Alors, le roman est une manière et voie cardinale pour penser.
Oui, et les romanciers sont souvent extrêmement déficients.
Vous faites le roman de la pensée, comme a dit tout à l'heure Julia.
Mais oui, mais regardez ce qui s'est passé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Nombre. Il y a eu tout de suite des penseurs pour s'y intéresser. Bon, il y avait déjà Drame avec Barthes. Ensuite, il y a eu Julia et Derrida.
Oui,
voilà.
Oui.
Et il y a un livre de Derrida qui s'appelle La dissémination, qui comporte 90 pages, qui donne son titre au livre. Le commentaire philosophique est traduit partout, mais l'original dont il commentait ne l'est pas. Par conséquent, il y a des étudiants américains ou des étudiantes américaines qui lisent sans arrêt du Derrida où il n'est question que de moi, mais qui ne peuvent pas se reporter au texte original. Voilà, par exemple, un exemple.
Oui, Julia.
Non, mais en écoutant ce que dit Philippe Solers en ce moment, je pense au fait que comment il choisit ses livres vivants dans les bibliothèques dont il parle. Nos livres ne sont pas rangés de la même façon. En effet, Port-Royal, qui était notre ancien appartement et qui est devenu maintenant son lieu de travail, vous ne pouvez pas entrer dedans, dans la pièce où il y a les livres, parce que ça s'accumule jusqu'au plafond. Et je ne sais pas comment il les choisit, comment ses vivants l'appellent.
Je ne choisis pas, c'est eux qui me choisissent.
Voilà, donc je vais donner ma version de ton choix. Par contre, chez nous, c'est maintenant à la rue d'Assas, tout est très bien classé, même si je me perds
professeur
un peu dans les classements. Donc je sais où se trouvent les livres. Mais ce qui me frappe dans son choix, c'est que dans sa manière de lire, ça passe toujours par le corps. Il y a une expérience physique, il est extrêmement physique.
Dans tous les romans aussi, d'ailleurs.
Voilà, mais dans sa manière de lire aussi, et à partir de perceptions, de traumas ou des extases, si vous me permettez l'hyperbole sensorielle, il va choisir dans tel livre, tel extrait, qui s'avère tout à coup extrêmement important pour l'auteur dont il s'agit, même si c'est quelqu'un que tout le monde a commenté depuis la nuit des temps, de Pascal à Shakespeare et jusqu'à Sartre, il va trouver les citations qu'il faut et qui nous révèlent cet auteur, mais parce qu'elles parlent de lui. C'est pourquoi quand on a son écriture romanesque en fugue, en texte musical et qui décompose la langue que j'ai lue tout à l'heure dans Nombre et jusqu'à maintenant, sollicite le corps d'abord, le sien et celui du lecteur. Et c'est pourquoi ça nous a interpellé quelques-uns des théoriciens. Tu as appelé tout à l'heure le texte de Derrida. Mais ce que Derrida a vu là-dedans, c'est la dissémination, c'est-à-dire le côté fragmenté et fragmentant de cette écriture qui vous sollicite de partout, qui va dans tous les sens, qui sème à tout vent, etc. Et il voulait à partir de là s'affranchir un certain nombre de clichés, de dictats, de d'ossification de la culture occidentale.
Ça, c'est au niveau de la syntaxe, mais pas seulement.
De syntaxe et des thèmes. Alors que moi, ce qui m'a intéressé, j'appelais ma lecture de Nombre, donc Nombre, texte de Derrida qui s'appelle Dissémination et qui a été très répandu dans l'université. Moi, j'ai appelé ça l'engendrement de la formule, avec le sens d'engendrement qui est très physique, très corporel, et comment il arrive à une formulation qui passe par une histoire des langues, par une histoire de ses rêves aussi, pour arriver à transmettre des messages. Donc c'est tout ce travail, je le trouve aussi dans ses choix des textes.
Vous a-t-il autorisé à écrire dans le registre du romanesque, Julia Kristeva?
Ah ça, tout à fait, oui. Même par moments de manière hyperbolique, je me souviens quand je commençais à écrire mon premier roman qui s'appelle Samouraï, on allait à la plage de l'île de Ré, qui s'appelle La Conche. Il me disait, ah ben tu vas voir, tu vas écrire un truc amoureux, ça sera mieux que l'amant de Duras. Alors, évidemment, c'est pas du tout dans les mêmes dimensions ni dans le même tirage, mais il est extrêmement porteur. Et le dernier qui est une sorte de romanesque, lui aussi pas classique, qui est Thérèse Mon Amour sur l'expérience mystique de Thérèse d'Avila, qui est un gros livre de 700 pages. Il a lu dans les points et les virgules, et avec énormément de conseils extrêmement pratiques.
Notamment à propos de l'espagnol. Porque hablo español muy bien,
tu parles espagnol, mais ce n'était pas seulement l'espagnol. C'est l'expérience en question qui consiste à aller jusqu'à la perte de soi et de retrouver des miroirs dans l'environnement qui reflètent des moments traumatiques et extatiques de ta propre existence. Oui. Juste un exemple peut-être, alors si vous permettez, dans Fugue. Quand il parle de Lacan, ça commence par dire, enfin ça commence, c'est le moment que je trouve
j'aime bien le titre, fort. J'aime bien le titre.
Le corps de Lacan en train de parler. Le corps sort de la voix et pas le contraire. Bon, mais ça, personne n'a vu ça. On pense qu'il y a le corps qui fait une voix et pas une voix qui fait un corps. Et c'est très important pour Lacan parce que ça explique pourquoi il donne tellement d'importance aux signifiants, mais ça explique aussi que son corps est créé par le langage et peut-être il y a une défaillance au niveau du corps. Il y a toutes sortes de phénomènes qu'il décrit de Lacan qui se reflètent dans cette phrase. Ou alors quand il dit un grand bourgeois de style aristocratique obligé de vivre au milieu des classes moyennes, tout à coup, on voit une vision de...
Ça le fait rire, c'est bien, Lacan. Philippe Soler se rit
mais
de
lui-même.
Mais
c'est lui aussi, ah oui. C'est lui, exactement. Il projette dans
la dimension de l'auto-ironie est à souligner, je crois.
Ou alors, quelque chose qui m'a intéressé en tant qu'analyste, il dit que, de manière très spécifique et très solercienne, ce qui caractérise le discours psychanalytique, l'effet analytique, produire quelque chose de dérangeant. Donc, n'enfermez pas Lacan dans une explication, même si c'est très important. Soulignez en quoi elle dérange, parce qu'être psychanalyste, c'est déranger. Et donc, je me suis demandé, mais est-ce que je dérange tout le temps mes patients? Il faudrait que je les dérange davantage. Donc, c'est des remarques qui sont liées à sa propre expérience du monde, parce qu'il dérange sans arrêt. Et il essaye de trouver chez l'autre qui corresponde à ça, et qui du coup donne à cet autre, non seulement la stature d'un personnage romanesque, mais des vérités que les différents commentateurs avaient oubliées.